les Américains possèdent des cartes de crédit, ils en possèdent beaucoup et il y en a pour différents types d'usages. Et finalement, le BNPL, il arrive en plus de ses habitudes. Fleur, tu voulais peut-être réagir par rapport à ça.
Exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'était plutôt une question pour Caroline. C'est donc ton interprétation, c'est qu'en fait, il y a moins de pénétration aux US parce qu'en fait, il y a déjà ce type de service en place avec des cartes de crédit qui sont là depuis toujours, en fait.
Exactement. Et en fait, une des raisons pour laquelle les gens adorent leur carte de crédit, tu es obligé de payer à crédit si tu veux un credit score. Et un credit score, ça te permet d'avoir accès à plein de choses aux États-Unis. Tu vois, moi, en bonne française, j'ai commencé à utiliser ma carte de débit quand je suis arrivée ici. Et on m'a dit, en fait, il faut absolument que tu switches sur une carte de crédit parce qu'il faut que tu aies un credit score. Mais l'autre chose, c'est qu'en fait, quand tu payes avec ta carte de crédit, tu as des points. Et ça, c'est extrêmement populaire aux États-Unis. Ce qui fait que c'est assez amusant aussi quand tu compares la France et les États-Unis. La France, les gens adorent payer avec des discounts. Aux États-Unis, ils considèrent qu'ils ont déjà quelque part des discounts parce qu'ils savent qu'en utilisant leur carte de crédit, ils vont cumuler des points.
Bonjour et bienvenue dans l'émission spéciale Un œil sur un pays, le format produit par les Digital Doers qui vous ouvre sur les écosystèmes retail et e-commerce en dehors de nos frontières. Coproduit avec l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco, cette émission vient compléter, une fois par mois, les interviews des décideurs de notre écosystème. L'idée est d'interroger des correspondants français implantés dans un autre pays. Ils sont prestataires de services, retailers, e-commerçants, DNVB ou marque, bref, ils sont des professionnels engagés dans leur territoire d'adoption. En effet, qui mieux que des Français basés à l'étranger pour nous aider à comprendre comment ça se passe ailleurs? Un œil sur un pays est donc une émission qui organise une conversation avec deux ou trois personnalités en duplex. Avec eux, nous parlons de la conjoncture, c'est-à-dire qu'en fonction de l'actualité, nous pouvons aussi bien aborder les sujets économiques, sociétaux, que politique. Nous faisons bien sûr un focus sur le marché de la distribution afin de comprendre les spécificités de l'offre et de la demande. Nous commençons par prendre un peu de recul en abordant les questions de la maturité des consommateurs, des volumes de vente ou encore du cadre juridique et réglementaire. Évidemment, il est aussi question des sujets plus opérationnels comme les stratégies d'acquisition, l'utilisation des données, les enjeux logistiques ou encore les moyens de paiement. Puis nous nous arrêtons sur les tendances et les enjeux qui attendent le marché local. Enfin, last but not least, nos invités donnent quelques conseils et recommandations aux Français qui veulent s'implanter dans le pays. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. La première émission est donc un œil sur les US, ce grand pays composé de 332 millions d'habitants et celui qui a vu naître Walmart et Amazon, deux géants du commerce. Les Américains ont élevé l'acte de consommation de biens et de services au rang de religion. Il était donc normal d'ouvrir ce nouveau format avec le pays de l'oncle Sam. Les sujets à aborder sont nombreux, remontée des taux d'intérêt, inflation, récession, crise de l'énergie. Comment ces sujets macroéconomiques influencent-ils le commerce aux États-Unis? Nous ne passerons pas non plus à côté des aspects régulation en Europe. Nous avons la RGPD, le DSA, le DMA. D'un point de vue réglementation, où en sont les États-Unis aujourd'hui? Avec plus de 40% de parts de marché aux US, Amazon trust une large partie des ventes en ligne et en profite pour pousser son service de retail média qui est en pleine croissance. Alors logiquement, on pense aux autres acteurs, distributeurs, marques ou des NVB. Comment font-ils pour exister? Doivent-ils impérativement être présents sur Amazon pour avoir une chance de vendre leurs produits? Et si tel n'est pas le cas, comment se déploie leur stratégie d'acquisition? Quel rôle jouent les réseaux sociaux? Comment se développe le social shopping ou le live shopping? Côté paiement, PayPal et Stripe sont des géants du paiement made in America. Alors, quels sont les moyens de paiement préférés des consommateurs américains? Si j'ai bien compris, les achats se font majoritairement à crédit. Cela veut-il dire que le BNPL, le Buy Now Pay Later, est ultra répandu là-bas, voire obligatoire pour assurer un beau taux de conversion? Côté user experience, l'UX, les sites Walmart et Best Buy ne rentrent pas véritablement dans nos canons de beauté de chez nous. Disons qu'en France, on est habitué à un design peut-être plus travaillé sur les fiches produits. La version US est donc pour le moins différente. Bref, pour aborder ces sujets et plein d'autres, j'ai le plaisir de recevoir trois invités de choix, toutes les trois basées à New York depuis quelques années. D'abord, Caroline Tellier, DG Europe du Sud chez PayPal, mais depuis New York donc. Caroline, tu es déjà passée deux fois dans le podcast. On va bientôt pouvoir dire que tu y as ton rond de serviette. Nous avons aussi Alix de Sagazan, CEO et cofondatrice d'AB Testing, solution leader d'AB Testing. Alix, toi aussi, tu es déjà passé derrière le micro il y a quelques années. Depuis, tu t'es installé à New York pour lancer AB Testing aux US. Et enfin, Fleur Touchard, pour qui c'est la toute première intervention, en charge du digital et du e-commerce chez Christophe aux USA depuis une grosse année. Avant cela, tu dirigeais les activités e-commerce de Bonpoint aux États-Unis. Tu as donc une expérience assez directe des consommateurs et de la vente à distance. Donc bienvenue à toi Fleur, merci à vous trois d'avoir répondu présente pour ce premier numéro. Pour commencer, honneur à la nouvelle venue. Alors Fleur, comment est-ce que tu caractérises le marché du retail et du e-commerce aux US aujourd'hui ?
Ben d'abord, merci Cyril de nous recevoir. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Écoute, le marché aujourd'hui, retail et e-commerce, je dirais, se porte bien, autant que faire se peut, étant donné le contexte international dans lequel on vit, je pense tous. J'ai vu récemment que le Black Friday et le Cyber Monday avaient battu des records. Donc voilà, écoute, je pense que c'est plutôt pas mal. Après, les États-Unis, je pense, ont des ressources et sont capables de se réinventer et de rebondir assez largement. Mais le chiffre intéressant que j'ai vu, c'est qu'effectivement, pendant cette période de Black Friday, beaucoup des achats avaient été financés par de l'emprunt, en fait. Et il y avait une augmentation de 15% des crédits sur cette période-là. Donc, des meilleurs chiffres que l'année dernière sur cette période de Black Friday et de Cyber Monday, mais à quel prix ? Mais les Américains vivent à crédit. Donc, de toute façon, je pense que
ils vivent à crédit. C'est justement ce qu'on disait un peu en introduction. Il y a aussi l'inflation, la remontée des taux qui, par la Banque centrale, est un moyen d'essayer de lutter contre l'inflation. Caroline, toi, tes côtés paiement, est-ce que c'est des sujets que vous regardez attentivement ? Est-ce que vous avez aussi des études ou des analyses sur les conséquences de ces taux d'intérêt sur la consommation ?
Alors, effectivement, nous, on voit que le buy now pay later, comme tu l'as dit, est une vraie tendance. C'est pour ça qu'on s'est aussi positionné maintenant il y a plusieurs mois. Et on a vu un taux d'adoption qui est assez phénoménal. Aux US, on a à peu près 22 millions de nos utilisateurs qui ont déjà fait un achat avec le paiement en trois fois. Donc on a différentes variations du buy now pay later en fonction de ce qui se fait dans les pays. Donc, c'est du trois fois aux US, c'est du quatre fois en France, parce que je crois que tu voulais aussi comparer un peu les US et la France. Mais ce qui est amusant, c'est que, en fait, les cartes de crédit restent toujours le moyen préféré des acheteurs en ligne aux États-Unis. Mais vraiment juste devant les wallets comme PayPal. Et on voit qu'en fait, le buy now pay later reste relativement faible. C'est 4% des transactions aux US qui sont faites, qui sont payées en trois fois avec les acteurs présents du marché. Alors que c'est aujourd'hui, j'avais la statistique, c'est 8% en Europe. Et peut-être, je pense, mon analyse, c'est qu'en Europe, comme le crédit est peut-être un peu moins
usuel,
exactement. Alors, peut-être pas au UK, mais dans des pays comme la France ou même l'Italie et l'Espagne dont je m'occupe. Finalement, le buy now pay later a pris la place que le crédit avait pu prendre dans d'autres pays. Et on voit que c'est vraiment l'Europe qui tire cette adoption du buy now pay later par rapport aux US et surtout par rapport au reste du monde. Et c'est intéressant de comparer d'ailleurs l'Europe, les US et le reste du monde parce que tu vois que sur d'autres tendances, typiquement l'adoption du mobile sur le point of sales, même en magasin, clairement, c'est les US et enfin l'Amérique du Nord et l'Europe qui retardent un peu cette adoption parce que d'autres continents comme l'Asie, l'Amérique du Sud sont beaucoup plus en avance que nos pays qui sont considérés comme plus matures, en fait.
Parce que, oui, pour compléter ce que tu dis, les Américains possèdent des cartes de crédit, ils en possèdent beaucoup, et il y en a pour différents types d'usages, et finalement, le BNPL, il arrive en plus de ses habitudes. Fleur, tu voulais peut-être réagir par rapport à ça ?
Exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'était plutôt une question pour Caroline. C'est donc ton interprétation, c'est qu'en fait il y a moins de pénétration aux US parce qu'en fait il y a déjà ce type de service en place avec des cartes de crédit qui sont là depuis toujours en fait.
Exactement. Et en fait une des raisons pour laquelle les gens adorent leurs cartes de crédit, il y a plusieurs raisons. Déjà, t'es obligé de payer à crédit si tu veux un credit score et un credit score, ça te permet d'avoir accès à plein de choses aux États-Unis. Donc, tu vois, moi, en bonne française, j'ai commencé à utiliser ma carte de débit quand je suis arrivée ici et on m'a dit, en fait, il faut absolument que tu switches sur une carte de crédit. parce qu'il faut que tu aies un crédit score. Après, tu peux décider que ta carte de crédit, en fait, t'es un débit par défaut à la fin de mois et pas d'utiliser les fonctionnalités de crédit. Mais l'autre chose, c'est qu'en fait, quand tu payes avec ta carte de crédit, tu as des points. Et ça, c'est extrêmement populaire aux États-Unis. Ce qui fait que c'est assez amusant aussi quand tu compares la France et les États-Unis. La France, les gens adorent payer avec des discounts. Aux États-Unis, ils considèrent qu'ils ont déjà quelque part des discounts parce qu'ils savent qu'en utilisant leur carte de crédit, ils vont cumuler des points et du coup, les banques sont extrêmement généreuses. En fait, au bout d'un an, tu te rends compte que tu peux te payer des voyages, des billets d'avion. Enfin, voilà, dès que tu utilises ta carte de crédit, tu engranges un cashback un peu tacite que tu peux ensuite utiliser sur plein de cas d'usage différents.
Un peu comme ce qu'on connaît en France avec l'American Express et puis Air France qui a lié les deux. On connaît tous autour de nous des gens qui veulent payer avec ça pour avoir des miles et à utiliser après sur Air France.
Complètement, c'est exactement ça, ouais.
Toi, Alix, en arrivant aux États-Unis en tant que consommatrice, t'as trouvé que c'était difficile de t'adapter à ces nouveaux modes de fonctionnement ?
Non, j'ai trouvé que c'était surtout difficile de s'adapter au prix des choses. parce que, déjà, quand tu arrives sur le territoire américain et que, effectivement, que tu vois le prix dans les supermarchés, le prix de ton loyer, etc., tu pleures un petit peu. Donc, évidemment, il y a des salaires qui sont adaptés, mais c'est quand même un petit peu difficile parce qu'après, quand tu rentres en France, tu vois quand même des différences énormes. Et puis là, je ne sais pas ce que vous en pensez des filles, mais moi, cet été, j'ai trouvé qu'il y avait l'inflation, il y a eu un gap, et particulièrement à New York, complètement hallucinant. Les prix se sont mis à augmenter. Je ne sais pas, il parlait de 8%, pour moi, c'était 30% en fait. On est rentré de France et on s'est dit, mais ce n'est pas possible, les prix se sont envolés.
Mais
c'est vrai qu'après les habitudes de consommation, en tant que personne, tu as les mêmes, effectivement, le point de carreau sur la carte de crédit, ça, c'est une découverte. Mais après, c'est surtout les prix, quoi.
Et les prix, ils ont évolué à la hausse sur toutes les catégories de produits ou tu as l'impression que c'est global ?
Ce qui est pas cher ici, c'est l'essence. et puis après, alors en fait, c'est le service qui est très cher ici. Ta femme de ménage, tu payes deux fois plus cher la nounou, etc. Tu payes deux fois plus cher ici. Et puis ensuite, du coup, les restaurants avec les tips, etc. Ça te coûte, je sais pas ce que vous en pensez, des filles, deux, trois fois plus cher qu'en France, quoi.
Ouais, et puis on l'a vu aussi dans les supermarchés. Enfin, moi, je trouve que dans les supermarchés, la food, et puis tous les produits importés aussi, parce qu'on sait, tu parles du prix de l'essence, mais on sait, tous les challenges qu'il y a eu sur les transports, en fait. Tous les produits qui sont apportés ont le double effet d'être impacté par l'inflation domestique du pays et puis d'avoir aussi un coût accru de l'acheminement du produit vers sa destination. Donc,
et c'est pas la hausse du dollar qui a atténué ces effets-là.
Sûrement pas.
Fleur, toi, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, c'est pareil que vous. Moi, quand je suis rentrée en France cet été, après pas mal de temps à cause du Covid d'être coincée ici, je suis allée chez Franprix. J'ai mis mes tocs à la caisse et j'ai cru que la caissière avait oublié la moitié des choses, en fait. Donc, tu vois, j'ai regardé après. Non, elle avait bien tout. Non, ce que tu dis sur les services est hyper intéressant. Et en effet, je pense que c'est lié à la structure économique des États-Unis qui sont restés industriels super longtemps. Il y a toujours une société de services, mais c'est vrai qu'on voit que les produits manufacturés ont tendance, qui sont faits ici en tout cas, ont tendance à baisser. Tu peux trouver des jouets hyper pas chers, tu peux trouver des vêtements extrêmement peu chers aussi ici, alors qu'effectivement les services, tu parlais la nounou, ouais, tout ce qui est éducation, tout ce qui est santé, c'est hors de prix. Et c'est vrai que quand tu vas chez le médecin ici, même si tu as une assurance, ça te coûte, enfin moi ça me coûte $40, et pour les filles aussi. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'il faut avoir en tête.
Et côté alimentation en France, il y a beaucoup de débats autour. Il y a Leclerc qui est tout le temps sur BFM TV pour expliquer à quel point il y a une inflation sur les produits alimentaires, des risques de rupture dans la chaîne d'approvisionnement. C'est des sujets qui sont aussi d'actualité aux États-Unis.
Oui. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais effectivement, il arrive que... Alors, il y a des queues. Je trouve dans les magasins, tu vois, chez Trader Joe, il y a la queue. Les gens ici font la queue. Et de temps en temps, tu arrives chez Trader Joe, puis la moitié des rayons sont vides. Je trouve que ça arrive encore. Et c'est assez fou. C'est-à-dire que du coup, tu rentres à la maison et puis les enfants disent « Bah, t'as pas pris ça ?» Et tu dis « Bah, il n'y avait pas, en fait. »
Il y a des produits par saison. Tu vois, par exemple, nous, la pâte feuilletée, on sait qu'il faut l'acheter en, en octobre-novembre, parce qu'après, tu n'en as plus pendant toute l'année. Donc, et puis en plus ça, on stratégise aussi, Cyril, tu vois, en tant que Français à New York et donc amateur normalement de bonne nourriture. Tu as des endroits, tu as Trader Joe's, tu achètes certains produits. Chez Whole Foods, tu achètes d'autres produits. Tu as aussi les prix qui ne sont pas les mêmes selon les supermarchés sur certains produits. Tu deviens un expert des supermarchés, en fait.
Complètement. Tu ne fais pas tes courses à un seul endroit. Tu achètes ton vin à un endroit, tu achètes ta viande à un autre endroit, tu achètes tes.
Quand tu arrives chez Leclerc en France, tu hallucines, quoi. Tu es là, oh là là, mais c'est magique cet endroit.
Mais même Monoprix.
Et est-ce que aux US, le sujet de l'omnicanalité ou du commerce unifié est aussi prégnant que chez nous? Est-ce qu'il y a des expériences utilisateurs, des parcours clients qui se construisent aussi bien online qu'offline dans les stratégies? Peut-être, Alix, tu as des sujets là-dessus?
Ouais, bah écoute, nous on a pas mal. Alors nous on n'a pas que des clients e-commerce, hein, donc moi je suis peut-être un peu moins experte e-commerce.
Non, mais parle du retail aussi.
Hein. Ouais, on a aussi des médias. On a pas mal de secteurs comme clients. On a à peu près 1200 clients aujourd'hui, et aux US j'en ai à peu près 200. Moi je trouve qu'il y a quand même une maturité. Alors, si les Français entendent ça, ils vont être vexés, mais je trouve qu'en gros, moi, dans les équipes digitales, je dirais qu'après, voilà, sur la manière d'acheter des solutions, sur les process, etc., je dirais qu'il y a peut-être un ou deux ans d'avance, entre guillemets, sur ces métiers-là. Et puis après, sur les parcours clients, moi, par exemple, je suis hyper impressionnée, j'ai des clients dans la beauté, où tu as, en fait, sur les technos, sur l'adoption des technos, tu vois, par exemple, de essayage de maquillage sur l'app de Ulta Beauté ou Sephora, par exemple, les trucs sont hyper poussés, hyper. Le parcours client est hyper, hyper fluide, hyper bien fait. Je trouve qu'ils essayent pas mal de choses. Donc, je dirais maturité des équipes digitales et peut-être appétence à la techno disruptive. Même si en France, franchement, on est quand même très bon, hein, mais appétence à la technologie assez, assez disruptive pour améliorer toujours le parcours utilisateur.
Et le lien entre le online et le offline est assez fluide, c'est-à-dire que tout est interconnecté, quelle que soit l'expérience.
Alors ça, je ne sais pas s'il y a une différence, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles, je ne sais pas si...
Ouais. Moi, je pense qu'en fait, après, tout dépend du cas d'usage dont on parle. L'omnicanalité, c'est un sujet assez compliqué parce que tu as pas mal de nuances. Et si tu regardes déjà rien que le fait de payer avec ton mobile en magasin, tu vois, on parle même pas des apps qui enrichissent leur expérience et qui te permettent de, voilà, ce que tu faisais en magasin, de pouvoir le faire via ton mobile. Juste le fait de pouvoir payer avec ton mobile, finalement, en France, on est assez en retard par rapport en Europe. Tu vois, en France, tu as 4%. 4% des paiements en magasin qui se font via le mobile, et c'est trois fois plus important aux US. C'est à 11% aux US, mais tu es à 30% worldwide. Donc, tu vois, quand tu compares les 4% des Français qui payent avec leur mobile en magasin versus les 30% dans le reste du monde, tu te dis qu'il y a un énorme gap de l'adoption de cette technologie du paiement mobile, que ce soit tu vois, le QR code ou via le
les instant payment ou
les terminaux de paiement qui maintenant acceptent Apple Pay pour la plupart d'entre eux ou Google Pay. On est quand même en France pas mal derrière, et au final aux US aussi, quoi, parce que même si c'est trois fois plus important aux US, ça reste trois fois plus faible qu'une statistique worldwide. Donc, t'imagines ce que ça donne sur des régions comme l'Asie ou la Chine en particulier.
Mais c'est vrai que le mobile ici est essentiel. Enfin, quand tu vois que les gens utilisent leur mobile pour payer les transports en commun, tu vas dans le bus et dans le métro, par exemple. C'est vrai que ça, c'est en place depuis quelques années déjà. Tu parlais de l'AR, Alix, et c'est vrai que je trouve que pendant la pandémie, les marques de produits de beauté se sont énormément développées dans la réalité augmentée. Et de pouvoir essayer son make-up via son téléphone, essentiellement.
Ouais.
C'est assez dingue. Et je trouve qu'effectivement, la pandémie, pour ça, a été un super booster dans l'adoption de ces technos. Et effectivement, je pousse, moi, pas mal, tu vois, sur le mobile. Et toute la réalité augmentée, de pouvoir tester, bon, après, c'est le meuble, etc. Tu vois, au-delà du maquillage, via ton mobile, c'est vraiment quelque chose d'extra, quoi. Les mobiles sont de plus en plus performants, on les a toujours dans la poche. Et c'est vrai que du coup, après, en termes d'omnicanalité, moi, je trouve que tu vas chez Uniqlo ici, ils t'achètent les trucs sur le site internet s'ils n'ont pas en boutique. Enfin, je trouve qu'il y a quand même cette omnicanalité qui est beaucoup plus développée aux États-Unis qu'en France.
Est-ce qu'aux États-Unis, le retour est quelque chose qui est hyper utile, utile, c'est pas le bon mot, il est très développé. Est-ce qu'on voit des Américains acheter plus de produits qu'il ne faut, et puis, parce qu'ils savent que derrière, finalement, ils peuvent retourner facilement? Est-ce que c'est quelque chose qui est...
Ouais, je peux peut-être répondre là-dessus.
Ouais, vas-y,
je me souviens d'avoir eu une discussion avec quelqu'un de chez Amazon, mais même il y a très longtemps, où je leur avais dit, mais pourquoi vous ne mettez pas en place la cabine d'essayage virtuelle chez Amazon pour éviter justement les taux de retour, qui coûtent une fortune, parce que effectivement, t'expédies un produit, il est immobilisé chez un client. Donc, enfin, au-delà de tout ça, tu ne peux pas le vendre pendant, enfin, bref, tout le truc. Et il m'avait dit, non, en fait, l'essayage, ben, voilà, c'est une techno, ça nous coûte très cher, etc. On préfère gérer des retours, c'est moins cher, et que les gens achètent différentes tailles. Aujourd'hui, la gestion des retours est ultra bien gérée. Bon, moi, je suis une vraie cliente Amazon. Amazon et Whole Foods, aujourd'hui, enfin, Whole Foods, c'est l'équivalent de Monop, si tu veux. C'est la même chaîne. Tu achètes chez Amazon, tu peux retourner tes produits, pas dans l'emballage, enfin, comme ça. Enfin, tu vois, j'ai acheté un clavier l'autre jour pour une de mes filles, voilà. Tu rapportes le truc, même plus dans la boîte Amazon, sans étiquette, sans rien, chez Whole Foods. Il y a un desk pour ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, les retours sont quand même extrêmement facilités.
Mais Amazon a vraiment démocratisé les retours.
Hein. Désacralisé.
Voilà, et créé une pression sur les autres retailers. En fait, aux États-Unis, quand tu demandes aux gens ce qu'ils les feraient acheter ou pas acheter, les retours, c'est tu vois, dans les trois raisons qui font que les gens achètent ou n'achètent pas. Et donc, ils s'attendent effectivement à des expériences aussi fluides que celles d'Amazon. Et aujourd'hui, enfin... Moi, j'ai la chance d'avoir un lobby là où j'habite, enfin une entrée. Tout le monde laisse ses paquets qu'ils veulent retourner. T'as des pick-up, t'as des gens qui passent. Enfin, franchement, tu te soucies de rien. Limite, tu
fais t'as toujours un mec UPS qui passe dans la route pour faire des colis.
Et puis t'es un peu bon, bah on verra bien ce qui se passe si je suis remboursée, mais en général, ça se passe très bien. Et PayPal, on a acheté une boîte il y a quelques années qui s'appelle Happy Return, qui justement aide tous les petits commerçants qui n'ont pas. La force de frappe technologique d'Amazon de se mettre au niveau et donc à développer tout un système de kiosques dans les États-Unis où tu peux redéposer ton produit sans l'avoir reconditionné en fait et se charge de retourner dans les entrepôts ou chez les retailers directement et ça marche extrêmement bien parce qu'en fait il y a un vrai besoin de se mettre au niveau sinon effectivement pourquoi tu l'as dit tout à l'heure tu disais que 40% du commerce aux US se faisait sur Amazon c'est ça tu te dis bah oui pourquoi acheter ailleurs en fait
tu dis ça sur les retours et
aux US. C'est un truc de dingue. C'est addictif Amazon aux US en fait parti pris de pas utiliser Amazon.
Est-ce que
mais c'est
parce que
la même chose sur les shipping fees
est-ce que c'est parce que vous êtes aux US que vous savez pas comment Amazon opère en France ou vous trouvez qu'il y a une différence entre l'expérience Amazon en France et celle aux US?
On est peut-être parti depuis longtemps aussi.
Mais on est parti depuis longtemps. Et puis, en fait, au final, je pense qu'en France, on connaissait bien les noms des marques et des marchands. Et tu vois, on avait nos habitudes. C'est vrai qu'ici, Amazon, c'est la facilité, quoi. Moi, je ne sais pas forcément où trouver. J'en sais rien, quelle est la dernière chose que j'ai acheté. Une brosse à cheveux. Tu vois, je ne sais pas quelle est la marque ici. Voilà. Et une copine m'a dit, bah voilà, cette marque, c'est très bien. Si tu vas la trouver sur Amazon, je ne me suis pas posé de questions, en fait. Enfin,
non, mais Amazon, ça marche très bien en France aussi. Moi, je le fais l'été. Hein. Oui. En France, ça marche hyper bien. C'est juste qu'eux, ici, alors, ils sont même en train de développer, figure-toi, un bouton de paiement Amazon où tu vas pouvoir payer via Amazon les marchands.
Mais je l'ai fait l'autre jour, figure-toi.
Ah ouais,
je l'ai fait il y a deux jours sur un site rien à voir avec la choucroute. Exactement. Et il y avait un bouton Amazon et je n'avais pas envie de me lever de mon canapé pour aller chercher ma carte bleue. C'était à l'horreur, 3 mètres. Et du coup, j'ai fait, c'est ça. Et j'ai fait via le Amazon.
Alors, on va la refaire et puis tu vas dire que tu as payé avec PayPal.
Bad. En fait,
parce que
voilà, les gens en France, on ne va pas être contents.
Mais du coup, l'autre news, les filles, parce que vous utilisez sûrement Venmo, c'est que maintenant, vous pouvez payer avec votre solde Venmo ou votre compte Venmo sur Amazon.
Mais, voilà, c'est extra.
Mais alors justement, c'est intéressant que vous parliez d'Amazon. Je le citais en introduction. Effectivement, c'est 40% des volumes de vente e-commerce aux États-Unis. La question qui se pose, c'est comment tu fais en tant que marque, d'ailleurs c'est peut-être à toi que Fleur la question se pose, mais même autre retailer, comment tu fais pour exister en dehors d'Amazon? Est-ce que quelque part finalement tout le monde est quand même sur Amazon et existe aussi ailleurs? Caroline, tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas les références de marque, tes habitudes comme tu les avais en France, où tu savais que pour acheter tel ou tel produit, tu te rendais sur tel ou tel site. En France, Amazon, c'est beaucoup moins qu'aux États-Unis. Je crois que c'est dans les 20%. Donc, il y a une place encore franchement occupée par d'autres acteurs. Le marché est peut-être plus éclaté. Comment ça se passe aux États-Unis? C'est forcément Amazon first et puis... les autres, c'est difficile d'exister.
Écoute, nous, en fait, moi, tout à fait personnellement, dans le métier que j'exerce, c'est vrai que je travaille depuis que je suis ici pour des marques de luxe. Donc, on s'est posé la question. En revanche, c'est vrai que sur le luxe, ils ont encore un peu du mal à percer. Donc, je pense que je suis un cas à part. Chez Bonpoint, on s'était même posé la question de savoir si on n'allait pas, du coup, mettre, tu vois, les anciennes collections ou les collections permanentes et garder les collections, tu vois... été hiver pour nous, et puis on l'a pas fait. En fait, du coup, on le fera pas chez Christophe non plus, je pense, mais on a des marques, en fait, c'est du luxe, et Amazon est très, on le disait tout à l'heure, fait un peu la pluie et le beau temps, ils ont démocratisé les retours, ils ont aussi énormément impacté les frais de shipping. Enfin, maintenant, ne plus payer ses frais d'envoi, c'est devenu monnaie courante pour les e-commerçants. Je te dis pas ce que ça provoque chez les petits, les petits acteurs qui effectivement rognent leur marge pour offrir les frais de port, c'est quand même assez difficile. Et nous, du coup, pour des marques de luxe, on n'a pas envie de se faire imposer une charte, on n'a pas envie de se faire imposer un calendrier commercial, on n'a pas envie de se faire imposer tout ça. Du coup, et on a le luxe de pouvoir faire sans. Maintenant, la marketplace, en tant qu'utilisateur, on vient de le voir là avec Caroline et Alex aussi, on y va tous. Je pense que pour des petits commerçants, c'est un super booster. Parce qu'effectivement, ça te permet d'apparaître dans des requêtes dans lesquelles tu ressortirais pas forcément sur Google. De faire de la pub super ciblée. Donc, après, je pense que ça dépend vraiment de ta marque et de ton marché.
Alix, tu as un point de vue ou... Vas-y, Caroline.
Ouais, c'était juste pour compléter, parce que nous, on a beaucoup de commerçants qui viennent nous voir parce que, justement, ils essayent de se démarquer d'Amazon. Et aussi parce que, maintenant, Venmo est accepté sur Amazon, mais tu payes pas encore avec PayPal. Donc, tu vois, clairement, on était une façon de se différencier d'Amazon pour certains commerçants. Et on a fait une étude il y a quelques années où, en fait, on s'est rendu compte qu'Amazon, c'est une destination où tu te rends quand tu sais ce que tu veux acheter. Et c'est extrêmement efficace. Tu as décidé ce que tu voulais, tu y vas, tu le trouves, tu l'achètes. Et en fait, il y a beaucoup de sites qui ont envie de recréer en fait un peu l'expérience magasin qui est tu y vas et en fait 80% de ce que tu achètes en magasin, c'est des achats impulsifs en fait, c'est des achats complètement spontanés. Et du coup, on a réfléchi beaucoup avec les e-commerçants là-dessus de comment tu recrées en fait cette spontanéité sur Internet qui n'existe pas du tout parce que à l'inverse, 80% de ce que tu achètes aujourd'hui sur Internet sont des achats que tu avais prévu de faire parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui vont bloquer la spontanéité quand tu es en ligne. En fait, déjà, tu as un parcours d'achat qui est beaucoup moins fluide. Hein. Tu ne te balades pas dans des rayons. Enfin, changer de page, c'est compliqué. Quelle page? Enfin, voilà, t'as pas un... Ça, Alix, probablement, c'est quelque chose que tu connais bien aussi. Puis ensuite, tu dois te créer un compte. Tu vois que tu as des frais de livraison. Tu commences à te poser la question de la politique de retour. Et en fait... Nous, on le voit, hein, la raison d'exister de PayPal, c'est d'apporter des clients en plus, du revenu en plus. Et en fait, on s'est rendu compte au travers de ces analyses que les clients PayPal étaient extrêmement impulsifs, beaucoup plus spontanés. Quand ils arrivent sur un site, ils vont visiter plus de pages produits. Ensuite, parce que pour plein de raisons, le buy now, pay later, ils ont du solde sur leur compte, ils ont les frais de retour offerts, ils ont des assurances en tout genre. En fait, on recrée quelque part ces émotions du magasin qui vont être un peu différentes, mais qui vont recréer la spontanéité. Donc, je pense que c'est aussi une façon pour les marchands de se démarquer d'Amazon et d'être en fait très très focalisés sur leur marque et sur leur expérience d'achat et comment justement on recrée de l'impulsion et on réinspire les clients et qui n'utilisent pas plus le web que comme un canal super efficace, mais aussi un canal à nouveau d'inspiration. Et c'est super intéressant, ces discussions qu'on peut avoir.
Alix, toi, ça va dans le sens de ce que tu observes ?
Bah, j'adore ce que dit Caro sur effectivement redonner de la spontanéité et effectivement la différence d'achat entre Amazon et les marques en général. Effectivement, ce qu'on propose chez ABTC justement, c'est d'optimiser en continu tous les touchpoints de ton site internet et puis surtout entre guillemets de libérer ta créativité et de pouvoir tester toutes tes idées. Justement, le fait d'avoir toutes ces marques sont quand même l'environnement concurrentiel, il est quand même chaud. Toutes ces marques un peu plus traditionnelles qui se font disrupter par toutes ces nouvelles marques, c'est complexe, hein, le e-commerce en ce moment. Puis, on a quand même eu, enfin, je sais pas si vous avez les chiffres du e-commerce en général, mais ça a augmenté tous les ans à peu près de 15%. On était quasiment à 30 et quelques, je crois, en 2020. Et là, ça rebaisse pas mal. Les marchands se battent pour chaque petit point de ROI et nous on est là justement pour les aider pour ça et pour les aider à être plus créatifs et à sortir un peu de la masse. Donc cette histoire d'inspiration et d'être plus créatif en fait, aussi pour se démarquer d'Amazon qui est effectivement un achat concret, impulsif, tout ce que tu veux. Et puis ensuite le reste des marques qui va pour rêver, pour t'inspirer, pour réfléchir, et puis on est là pour les aider pour ça.
Justement, tu fais une super passerelle avec le sujet de l'UX, puisque je le disais dans l'introduction, quand tu vas sur le site de Walmart ou de Best Buy, c'est une horreur en termes de design, c'est pas beau. D'ailleurs, Amazon, on peut pas dire que ce soit super digeste, hein, c'est pratique, c'est efficace, mais il n'y a pas un côté... où tu te sens bien, il n'y a pas une expérience de beauté et de design dans ces sites-là. Toi, justement, avec ton regard, comment tu peux comparer ce qui pourrait représenter des canons en France versus les États-Unis ?
Écoute, moi, ce que je sais, c'est que les clients que j'ai qui sont des Best Buy ou des Walmart, etc., on va comparer ça à du Cdiscount ou du Carrefour, c'est très simple, c'est exprès que ce soit comme ça, puisqu'en fait plus c'est moche et plus t'as l'impression de faire une bonne affaire. Donc en fait les gens qui vont acheter sur ces sites là en fait c'est l'UX en soi, il faut que le parcours soit fluide. Après, la beauté du design est beaucoup moins importante, parce que Cdiscount, ils nous ont toujours dit, plus ça fait sapin de Noël et plus tu as l'impression de faire des bonnes affaires, c'est Discount ou autre discounter, on va dire, et plus tu as l'impression de faire des bonnes affaires. Et donc, en fait, c'est même une recommandation pour ces sites-là de ne pas forcément avoir des très beaux designs. Après, je ne sais pas s'il y a une grande différence entre... Ensuite, pour les marques, là, c'est important, puisqu'en fait, pour les marques, tu dois avoir une expérience nickel. Et nous, nos clients dans le luxe, pour le coup, c'est beaucoup plus complexe que nos clients dans un retailer basique, on va dire, d'une marque, je sais pas, mid-market, parce que en fait dans le luxe tu peux pas toucher à la marque. Donc en fait il y a beaucoup plus de, par exemple pour faire un test ou pour faire une personnalisation sur nos sites de luxe, il y a beaucoup plus de validation, parce qu'en fait il faut passer par les équipes design, etc., que sur un pure player retailer qui a un positionnement pricing moyen. Donc en fait nous, chaque client, enfin tu vois, un client justement un hard discounter, etc., il va faire beaucoup de tests, beaucoup de personnalisation, ils vont utiliser à fond, enfin nous ils vont nous utiliser à fond. Un site de luxe, ils vont nous utiliser pour des choses un petit peu différentes, parce qu'ils peuvent beaucoup moins toucher à leur image de marque.
Fleur, la suite est pour toi. Comment ça se passe entre l'expérience et le parcours client online de Christophe en France et aux US? Quels sont les défis ou les combats que tu dois mener pour adapter ou pas?
Nous, on travaille beaucoup main dans la main. Enfin, moi, j'ai la chance aujourd'hui de travailler avec une équipe que j'adore et avec laquelle je communique énormément. Ça n'a pas toujours été le cas. J'essaye, et je pense que c'est comme ça qu'ils le voient aussi, d'impulser justement des tendances. Enfin, tu vois, chez Bonpoint, par exemple, j'étais à fond pour le checkout as a guest, pour éviter que les clients aient à se créer un compte à chaque fois, la France a été mordicus là-dessus. Je leur disais, mais les gars, moi, je peux pas. Parce qu'en fait, on a les mêmes sites. Donc, c'est exactement ce que tu disais, Alex. C'est-à-dire que moi, je représente une marque de luxe et l'expérience doit être la même, quel que soit le pays et quel que soit le support en réel. Donc, là où tu as une expérience en boutique qui évoque tes cinq sens, qui est en 3D, etc., je me retrouve avec un écran en 2D dans lequel, globalement, j'ai que le visuel pour séduire. Donc, c'est vrai qu'il y a un réel challenge. En revanche, du coup, on fait vraiment en sorte avec les équipes en France, et c'était un peu pareil partout où je bosse, d'avoir des plateformes donc, qui sont les mêmes, en fait. Moi, je les pousse, donc je suis un peu la lourde, qui vont dire « Ouais, faudrait tester ça. » Et là, en ce moment, mon credo, en gros, c'est le mobile. Tu vas faire en sorte que l'expérience sur le mobile, en termes d'ergo, de parcours client, d'expérience, soit la même, donc chez eux aussi, et de leur dire c'est le futur. Là, on parlait juste d'un truc tout bête, c'est la position du bouton du menu sur le mobile. Et j'en disais, moi, je vois beaucoup ici de sites sur lesquels, en fait, ce burger, on appelle ces trois traits là, qui permettent d'ouvrir le menu, les standards, en gros, voulaient qu'ils soient à gauche. Il y a beaucoup de droitiers et je vois pas mal de sites où c'est à droite. Donc, je leur disais, les gars, il y a peut-être un truc qui est en train de se profiler. Voilà. Et j'essaye, du coup.
Faut que tu testes ça, Flore. Hein. N'hésite pas à prendre AB Testy, là, pour.
Il y en a une qui perd pas le nord.
C'est ça, mais t'as bien raison. Mais j'essaye, voilà, d'être force de proposition. Tu vois, dans un pays dans lequel on le disait tout à l'heure, je pense qu'on est quand même en avance aux US sur les usages digitaux.
Alors justement, à propos d'usages digitaux, parlons un peu de l'acquisition. Est-ce que vous voyez les réseaux sociaux devenir prédominants dans la stratégie d'acquisition ? Je parlais du retail média parce que c'est aussi un autre sujet qui va de l'avant. Est-ce que le live shopping se développe comme c'est le cas par exemple en Chine, aux États-Unis, et le social selling également ?
Alors, nous, en fait, on a énormément de demandes d'accompagnement sur le shopping contextuel, le shopping sur les réseaux sociaux. J'ai aussi quelques chiffres, en fait, aux États-Unis, il y a 37% des gens qui disent qu'ils ont déjà acheté via des réseaux sociaux. Et en France, 76% disent qu'ils ont utilisé Facebook pour faire un achat. Alors, on voit qu'en fait, en France, Facebook est encore assez important, mais c'est vrai, moi je le vois aussi en tant que consommatrice, hein. Tu peux pas aller sur Instagram sans te faire pousser des offres de plus en plus pertinentes. Parfois tu te dis, mais en fait mon téléphone m'écoute parce que j'ai parlé de quelque chose, clairement j'ai pas fait de recherche ni sur mon ordinateur ni sur mon téléphone, mais j'ai parlé de quelque chose vocalement et là on me pousse un truc qui correspond à ce que j'ai dit. Enfin, ça en devient un peu flippant, mais c'est extrêmement extrêmement efficace. Et donc, nous, on a travaillé avec les Instagram, enfin, tout le réseau Facebook, en fait, pour les aider. On aide les commerçants, justement, à accepter des ventes via ces canaux. Et notamment dans des expériences, tu sais, où tu n'as plus besoin de sortir de la plateforme, tu n'as plus besoin de sortir d'Instagram pour finaliser ton achat. Et c'est aussi toutes les plateformes, on n'en a pas du tout parlé, mais après, je ne sais pas quelle est la plateforme qu'utilise Christophe, ou si toi, Alex, vous avez des partenariats spécifiques avec les plateformes e-commerce, les Wix, les Shopify, les PrestaShop plutôt en France. Mais en fait, c'est des plateformes qui vont maintenant penser réseaux sociaux, commerces sociaux en premier, et qui ont des solutions aussi adaptées à ces plateformes-là.
Et vous, je sais pas, Flore, Alix, vous utilisez à titre personnel les sujets de, enfin le live shopping. Vous avez déjà fait des achats à travers ça ? Vous voyez que c'est quelque chose qui se développe ?
Ouais, moi sur Instagram, comme Caro, on pousse les bonnes. Enfin, de toute façon, je pense que c'est pareil partout. Hein, on pousse les bonnes pubs et puis t'achètes un produit. En fait, c'est beaucoup des tessiers, des directs aux consumers. Je sais pas, la marque de, je sais pas, le meilleur mascara du monde, la meilleure crème de je sais pas quoi. Tu regardes, tu te dis, tiens, bah, il m'en manque un, hop, allez, je vais essayer. Et puis, t'as, en un clic, tu l'achètes. Tout est déjà préenregistré, ta carte bleue, ton adresse. C'est seamless, quoi. C'est tellement facile. Puis après, potentiellement, enfin, moi je sais qu'il y a 6 mois, j'ai fait 2-3 achats comme ça impulsifs sur Instagram. Honnêtement, j'ai été déçu des produits et j'ai pas recommencé. Mais ouais, je pense qu'on en est tous victimes
Et je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai été déçu par ces expériences-là. En revanche, sur le live shopping, c'est un peu différent parce qu'effectivement, sur le live shopping, tu t'inscris, mais si tu veux, c'est un rendez-vous. Donc, tu sais que tu te connectes à telle heure avec telle marque pour un live shopping qui va durer une demi-heure, une heure, etc. Moi, j'en avais fait un pendant la pandémie, justement, sur des marques qui essayaient de se réinventer un petit peu parce que les gens ne se déplaçaient pas et donc pour faire acheter les gens depuis chez eux sur des expériences un peu plus proches de retail. Où en gros c'était sur les accords fromage et vin, donc c'était assez top. Et t'avais quelqu'un, donc t'avais deux spécialistes qui parlaient et qui présentaient différents vins, différents fromages. Et puis t'as en dessous une liste de produits qui sont évoqués au fur et à mesure de la conversation et que tu peux acheter. Écoute, le format était pas mal. Je trouve qu'il y avait eu un gros buzz sur le live shopping venant de Chine où c'était ultra développé, etc. C'est un peu retombé comme un flop. Il y a des grandes marques de luxe aussi qui avaient fait des événements comme ça sur les Champs-Élysées. Je me souviens plus de quelle marque, pardon pour la marque, mais c'était assez sublime. En gros, tu étais c'était tourné depuis la boutique, t'étais depuis ton écran immergé avec ces personnes qui étaient physiquement là au même moment que toi, parce que c'est donc live. Et l'expérience était assez chouette, mais je sais pas, c'est un truc qui a pas vraiment pris.
Bon. Après, Cyril, ouais. Je sais que c'est toi qui poses les questions.
Non, vas-y, vas-y.
Mais moi, la question que je me pose, c'est aussi le rapport des consommateurs aux promotions. Et tu vois, Instagram, on va te pousser le truc de... on va te pousser des trucs en promo. Enfin, on te donne toujours l'impression que tu vas rater. Tu vois, c'est un peu le FOMO, quoi. T'as le FOMO d'augmenter. Et puis Instagram, en plus, tu sais que si jamais tu sors et que tu reviens, tu vas pas forcément retrouver la même offre, tu vois. Donc, un peu... C'est maintenant ou jamais. Et moi, je me pose beaucoup la question parce que dans le paiement, on travaille énormément avec les retailers sur des expériences super rapides. Enfin, on sait que chaque étape en plus dans un parcours d'achat va tuer la conversion. Et pourtant, tu as notamment en France deux tiers des gens qui disent qu'ils n'achèteraient pas des produits s'ils n'étaient pas en promotion. Et tu sais que ça peut prendre un temps de dingue d'aller chercher un code promo sur des plateformes de code promo. Donc, tu vas peut-être gagner 3 secondes dans ton parcours d'achat avec PayPal ou d'autres solutions. Mais par contre, tu es prêt à passer 20 minutes à aller chercher un code promo et tester 15 codes promo différents. Donc, à nouveau, j'en profite pour... parler de Honey, qui est la plateforme de coupons qu'on a acheté, qui est super, enfin qui marche super bien aux US. Maintenant, moi, quand j'achète sur n'importe quel site, j'ai cette espèce de petite extension qui me dit, automatiquement, les offres dont je peux bénéficier en proactif ou en réactif. Et j'ai l'impression que les 10 derniers achats que j'ai faits sur Internet, grâce à Honey, j'ai économisé entre 15 et 30% vraiment. Enfin, j'économise pas 3 $, quoi. J'économise 30 $ sur un panier à 100 $. Donc, assez dingue, mais je ne sais pas si c'est vraiment la direction que veulent prendre les e-commerçants et qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Tu vois, peut-être toi, Fleur, avec Christophe, qui est une marque quand même extrêmement premium de luxe, quel est votre rapport aux promos? Et toi, Lick, j'imagine que c'est aussi des choses qui sont testées constamment par les retailers, ce rapport à qu'est-ce qu'il vaut mieux que j'optimise entre mon prix et tous les autres leviers que j'ai à ma disposition.
Oui, si tu veux que je commence. Après, oui, exactement, c'est ce que tu dis, hein, Christophe. Presque 200 ans d'histoire avec une image de marque. Là, on a refait des sublimes campagnes qui reviennent sur les fondamentaux de la marque. Enfin, c'est assez beau sur le logo, toute la colorimétrie autour de l'univers Christophe, etc. Donc, c'est assez chouette en plus d'être dans cette chez Christophe à ce moment-là où ça se passe. On est vraiment très très fiers de notre histoire et de nos produits. Et en fait, c'est vrai que Christophe est assez particulier parce que dans le monde du flatware et de l'argenterie, on fait pas de promo.
Ouais, c'est ça. Que, c'est pas étonnant.
Parce que là où c'était peut-être différent chez par exemple chez Boncoin où on faisait peu de promos aussi et où pourtant il y a des collections. Tu vois, du coup ça devient obsolète. Qu'est-ce que tu fais de ton stock? Donc comment est-ce que tu optimises ça, etc. Avec d'autres types de circuits. Chez Christophe, en fait, on a peu de produits obsolescents parce que, c'est des collections qui durent depuis
un siècle.
Et puis en plus, qui sont des matières premières, de qualité. Donc, si tu veux brader ces matières premières, qui aujourd'hui, on le sait tous, valent de l'or, même le bois. Il y a eu des pénuries sur des matières, même le métal.
Bien sûr. Toi, Alix, tu vois tes clients interpréter le parcours comme Caroline le suggère en fonction des promotions.
En fait, ce qui est génial, c'est que c'est complètement infini. Nous, justement, c'est là qu'on intervient et c'est toute la beauté de ce qu'on propose à nos clients. C'est que, en fait, je me rappelle, on m'avait dit, mais vous, ABTC, une fois qu'on a tout optimisé sur le client, on n'a plus besoin de vous. Je dis bah non, en fait, parce que tu as tout le temps besoin d'optimiser, tu as tes consommateurs qui changent, tu as tes triggers qui changent, tes promos, bah c'est pareil, c'est endless, quoi. Qu'est-ce que, enfin, nous, on a, je vais pas vous tous les détailler, mais on a plein de use case de, je sais pas, si tu dépenses plus de 100, le shipping est offert, si on te fait telle promo sur tel produit, l'autre, enfin, je veux dire, on teste ça en continu, on a des tonnes de use case. On vient de racheter justement une boîte de product recommendation, nous, pour continuer d'optimiser à fond, proposer des nouveaux produits. Notre objectif, c'est vraiment d'arriver à quand on a créé ABTC, on a dit il faut que tout le monde puisse faire comme Amazon. En 2012-2013, quand on a eu l'idée, Amazon faisait déjà 100 tests par semaine, et puis bah, un nombre de personnalisations hallucinant, parce que bah, on a tous un parcours très personnalisé sur Amazon. Et nous, on s'est dit, bah, il faut qu'on puisse proposer à tout le monde de faire la même chose.
Donc finalement, les promotions, ça rentre donc complètement dans les prérogatives de tes clients en utilisant ABTC. J'ai une autre question qui me vient quand on parle des différences entre la France, l'Europe d'un côté et puis les États-Unis. Chez nous, on voit beaucoup les sujets du développement durable, de la consommation et du commerce durable, les sujets RSE, quoi, la seconde main, le reconditionné. Ces sujets-là, aujourd'hui, ils sont vraiment d'actualité aussi aux États-Unis ?
Ah bah, chez nous, en tout cas, complètement. Et même en France, d'ailleurs, parce que la France vient de lancer un projet vintage où ils vendent des produits reconditionnés, non, mais remis en état, ou tu vois, voilà, mais en gardant les produits quand même un peu dans leur jus. Ouais, je pense qu'effectivement, nous, on se targue de ça, en tout cas, de dire qu'effectivement, quand t'achètes du Christophe, t'achètes des produits. J'étais chez le médecin l'autre jour, qui est quand même un âge avancé, qui me disait que ses parents avaient eu une ménagère Christophe pour leur mariage. Tu vois, ça, je trouve ça, c'est quand même assez exceptionnel. Après, tu disais sur tester les promotions, tu vois, on a quand même ces réflexions-là. Tu vois, on se dit, est-ce qu'il vaut mieux offrir les shipping? Est-ce qu'il vaut mieux donner un bon de, tu vois, de 10% sur le prochain achat? Est-ce qu'il vaut mieux offrir un GWP? Un gift with purchase, tu vois, c'est des trucs qu'on teste quand même. Après, on a du mal à mesurer les retours, je trouve. Tu vois, c'est là-dessus qu'on pêche. C'est de se dire, voilà, en offrant le free shipping, combien d'achats t'as déclenché en plus. Ouais. Les chiffres sont tellement n'importe quoi et les courbes sont tellement n'importe quoi depuis le Covid, où tous les trucs vont dans tous les sens. T'as plus de normes, en fait. On réfère aux chiffres 2019. Tu sais même pas si 2019 est finalement une année.
Bon, Fleur, je te propose que tu vois avec Alix un peu plus loin pour savoir comment optimiser le truc.
On en revient à la même chose.
Voilà. Non, mais pour revenir sur cette consommation
responsable,
c'est vraiment très très marqué en France. Est-ce que ça l'est, vous le percevez?
Mon intuition, c'est que ça allait beaucoup plus en France qu'aux US. Et d'ailleurs, tu vois, tout à l'heure, on disait quelles sont les choses importantes top of mind pour les gens quand ils dans l'acte d'achat ou de non-achat. En France, tu te rends compte que l'achat responsable, progressivement, devient une des raisons d'aide à la décision. Tu as 60% des Français qui disent qu'ils sont prêts à payer plus pour des achats plus responsables. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit chez les consommateurs américains. Et après, en tant que résidente américaine, enfin, je pense qu'on le voit toutes les trois, que ce soit principalement en fait, dans les expériences magasins physiques, les restaurants, on a l'impression que l'Américain est un peu en arrière du Français en termes de responsabilité aux causes de la planète. Quoi.
Complètement. La différence entre la France et le gap se creuse d'année en année. Nous, les programmes de RSE, les salariés français sont hyper impliqués. Tu choisis aussi ta boîte selon l'engagement de l'entreprise, etc. Alors qu'aux US, on en est encore loin. Et puis, encore une fois... faut que tu vois, quand on se commande à déjeuner, les monceaux de plastique qu'il peut y avoir. Tu vois, les sacs, c'est arrivé quoi ? Les sacs en papier, c'est arrivé quoi il y a un an ? Alors qu'en France, ça fait
Des années, ouais.
C'est hallucinant, ouais. C'est complètement... C'est hallucinant.
Je sais pas, j'ai une réponse plus mitigée. Mais ouais. Après, je pense qu'il y a aussi énormément de disparités. Enfin, faut pas oublier qu'on parle des États-Unis, qui est un pays, je sais pas, grand comme l'Europe, avec des disparités qui sont les mêmes enfin, si tu veux, un Texan se comporte pas du tout de la même façon qu'un New-Yorkais, qui va pas se comporter de la même façon qu'un. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant, enfin, pendant le Covid, je devais faire ce parallèle, mais le port du masque, enfin, c'était n'importe quoi. T'avais, enfin, tu vois, en Floride, ils en avaient rien à foutre. En Californie, c'était un peu plus respectueux. Tu vois, je pense que la Californie est plus respectueuse de l'environnement. Enfin, ils mangent bio, machin. Donc, le discours, il peut pas être uniforme pour l'ensemble des États-Unis. Et je pense qu'à New York, on est assez plus.
Et New York, qui sont. Voilà. Voilà. Oui, mais même. Je trouve que tu vois, New York.
Ah oui, c'est sans commune mesure. C'est sûr.
Le Vinted, ça existe aux États-Unis ?
Eh ben non. Mais justement, je pense que ça rejoint ce que disait Caroline et Alix d'ailleurs. C'est qu'effectivement, c'est un truc qui est très imprégné en France. Et qu'il est peut-être moins ici. Mais on est aussi sur une histoire qui est beaucoup plus récente. Les Américains sont moins habitués justement à ces marques, à ces choses qui durent et tout. Je sais pas. Après, est-ce que c'est un truc culturel ? Honnêtement, j'en sais rien. C'est difficile de faire passer des messages à une, voilà, sur un pays et sur une population qui est aussi vaste. C'est dommage.
Je sais pas si c'est...
Nous, c'est des trucs qu'on véhicule vachement.
C'est... Non, vas-y, Caroline. Ça existe. Je pense que c'est juste qu'il y a un concurrent qui s'appelle Poshmark. Qui pour le moment est la référence. Donc c'est, ouais. Après, je ne sais pas dans quelle mesure
non, ouais.
L'adoption de Poshmark a eu la même fulgurance que celle de Vinted ou du Bon Coin en France.
Ouais. Non, puis nous, c'est peu de produits vintage. Tu vois, puis on se rend compte qu'en fait, ça fait venir des gens qui ne vont pas forcément acheter du vintage, mais qui vont aussi découvrir les autres collections. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un moyen aussi de faire venir les gens pour redécouvrir.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si c'est une question culturelle ou si c'est une question justement de volonté politique de faire changer les choses, parce que tu reprends la France il y a 10 ou 15 ans, on n'était pas du tout dans l'achat de seconde main comme on l'est aujourd'hui, ou dans une consommation durable comme on l'est aujourd'hui. Ce qui m'amène à vous poser la question de la régulation, là je le disais aussi en introduction, l'Europe est connue pour réguler, peut-être les États-Unis pour innover, l'Europe pour réguler. La régulation, elle n'a pas que du mauvais. On le voit, par exemple, sur les sujets environnementaux. C'est quoi le contexte réglementaire dans l'écosystème retail e-commerce aux États-Unis, qu'est-ce qui change ou pas ?
Caroline, sur la partie paiement, ouais, la partie paiement, je dirais qu'il y a moins de régulation. Enfin, tu vois, quand tu regardes la DSP2, Strong Authentication, l'authentification forte, ça impacte. Enfin, voilà, ça a été mis en place maintenant et on voit à quel point ça introduit de la friction dans les parcours d'achat. Même nous, hein, tu dois te connecter à ton compte PayPal, tu as une authentification forte. Alors, on a ce positionnement. Assez privilégié PayPal, qui est qu'on connaît tellement bien nos clients que du coup on a des exemptions que d'autres moyens de paiement n'ont pas, donc on devient encore plus
royaliste que le roi.
Non, au contraire. Enfin, en fait, les marchands se tournent vers nous en nous disant comment je fais pour amener un maximum de trafic sur PayPal, parce que du coup il n'y a pas de coupure dans le tunnel d'achat.
Très bien, ouais.
Il n'y a pas le SMS ou peu importe ce qu'utilise la banque pour authentifier le client. Mais ça, ce n'est pas encore arrivé aux US. Et puis, tu parlais des marketplaces. Pareil, les marketplaces, c'est extrêmement régulé en Europe. Ça l'est encore moins. Enfin, ça l'est moins aux US. Après, ça va probablement arriver. Mais du coup, nous... Tu vois, moi, par exemple, avec mon expérience paiement Europe, je vois que j'ai beaucoup de choses à apporter ici aux US, parce qu'on se dit le jour où les US se mettent au même niveau que l'Europe en termes de régulation, en fait, on est prêt et on a compris les implications. On a déjà travaillé avec les e-commerçants, avec les régulateurs, et on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Est-ce que nos 20 ans d'expérience nous donnent comme avance sur justement cette confiance, cette connaissance client? Qui est un avantage pour PayPal, bien évidemment, et qu'on répercute sur les commerçants qui travaillent avec nous.
Bien sûr. Et les sujets de RGPD, d'absence de cookies, ça, c'est des sujets qui ne sont pas du tout existants sur le marché américain.
Bah, si.
Si.
Enfin, pour moi, si. Ouais, pour moi, si. Et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de te référer à ta data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand tu vas sur Analytics, les trois quarts des visites qui viennent sur ton site, elles sont en aveugle. Donc c'est assez compliqué, d'où, c'est pas pour te lancer des fleurs, Alix, mais c'est vrai que du coup avec des solutions comme celle qui est offerte.
Non, mais vous allez vraiment faire un call toutes les deux.
En fait, c'était un podcast pour faire de la pub pour ABTC.
Je t'enverrai la facture.
Non, mais voilà, parce que c'est vrai que comme c'est vrai que du coup, sur Google, c'est de plus en plus opaque, ou en tout cas de plus en plus difficile. Tu vois, moi, mes data, je les prends. Du coup, deux Magento, deux Analytics. Enfin, voilà, tu vois, j'ai je sais pas combien de sources pour essayer d'avoir un truc qui fait un peu du sens. Et puis, encore une fois, tu vois, tu parlais tout à l'heure des pourcentages, Alex. Enfin, c'est des trucs qui sont difficiles à évaluer. Il faut avoir de la valeur... de la valeur brute. Donc, je trouve qu'effectivement, tout ça fait que ça devient difficile à tester. Ouais. Les cookies, c'est un vrai truc. Non, c'est un vrai truc. C'est un vrai sujet pour moi.
Merci pour tous ces insights. Avant qu'on conclue notre émission, est-ce que vous auriez des recommandations à donner à des Frenchies qui veulent venir aux US? Que ce soit des prestataires de services ou des retailers. Vous êtes toutes les trois sur la côte Est. Alix, je sais que c'est un choix. Ouais. Caroline, il se trouve que PayPal est là. Fleur, c'est pour encore d'autres sujets. Qu'est-ce que vous pourriez partager comme retour d'expérience à des Français qui veulent tenter une aventure américaine?
Ouais, alors ça dépend, je commence. Ça dépend qui, effectivement. Alors, effectivement, côte Est, côte Ouest, ça, je pense que ça dépend de ton business, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, personnellement, c'était trop loin, la côte Ouest. J'ai quand même la majorité, on est 310 aujourd'hui, j'ai quand même la majorité des gens qui sont en Europe. On est seulement 40 aux États-Unis. Donc, c'était compliqué pour moi d'être sur la côte Ouest. Et puis, de toute façon, nous, on vend à tout le monde aux États-Unis, donc côte Est ou côte Ouest, ça ne changeait pas grand-chose. Et puis après, bon, moi, je dirais, du coup, pour prestataires de services comme nous, solutions SaaS, ce qui est chouette, c'est que nous, on est de plus en plus entrepreneurs à bouger aux États-Unis. Donc, on commence à avoir pas mal de playbooks sur les choses à faire, pas à faire. Moi, il y a 4 ans, quand je suis arrivée, j'avais été voir pas mal d'entrepreneurs. Il y en avait quelques-uns, mais il n'y en avait pas encore beaucoup. Là, il y en a de plus en plus. Donc, c'est vrai que pour les entrepreneurs français qui bougent aux US, parce qu'ils ont un marché global. Voilà, on est de plus en plus à avoir les playbooks, les choses à faire, à ne pas faire. Donc là, ça ne se dit pas en 3 minutes sur un podcast. Mais moi, je suis toujours contente de discuter retour d'expérience sur tout ce que j'ai pu bien ou mal faire en m'installant aux États-Unis, parce que c'est pas du tout anodin. Moi, j'y suis un peu allée la fleur au fusil en me disant on verra. C'est vrai que quand je prends du recul, moi j'ai eu mes deux premières années qui ont été extrêmement difficiles.
À quel point de vue?
Le recrutement, ça a été hyper compliqué. En plus de ça, il fallait que je gère l'Europe en même temps. Enfin, j'avais pas bien organisé mon départ. J'ai eu pas mal de galères. Et je dirais que j'ai mis. Alors bon, on va peut-être un peu enlever le Covid, et puis j'étais aussi enceinte entre-temps, mais disons que j'ai mis 3 ans à former une belle équipe performante. Et voilà, ça ne s'est pas fait overnight, quoi. C'est complexe.
Merci. Caroline, tu veux ajouter quelque chose? Tu as des recommandations que tu voudrais partager?
En fait, moi, ce que je vois, c'est que... les e-commerçants français vendent déjà beaucoup aux US, sans forcément s'implanter aux US. Alors, c'est derrière la Chine, mais je crois que 20% des achats qui se font à l'étranger se font vers les US. Et bon, après, nous, on a un peu une vision biaisée parce que PayPal, on est extrêmement impliqué sur ces achats transfrontaliers. En fait, il y a plus de 50% du business de PayPal qui se fait entre un vendeur et un acheteur qui ne sont pas dans le même pays. Donc, on voit que ce corridor France-US est déjà extrêmement développé. Donc, la question, c'est plus à quel moment tu as vraiment besoin d'aller t'implanter aux US en fonction de ce que tu vends. Tu vois, si tu es un service, peut-être comme Alix, effectivement, c'est compliqué de faire du business à distance. Mais si tu vends des produits, tu vois, à quel moment, en fait, tu prends la décision d'aller vraiment prospecter le marché, parce qu'aujourd'hui, tu as plein de solutions qui te permettent de faire... du business à l'international sans la présence locale, dont PayPal. mais PayPal t'aide aussi si tu t'implantes localement. Tu vois, à nouveau, avec PayPal, en une intégration, tu as tous les moyens de paiement qui sont pertinents dans le pays que tu vas pouvoir accepter. Et puis, on parlait des plateformes de commerce, les Wix, les Shopify, pareil. Maintenant, ça fait partie de leur ADN. Je pense qu'il y a quelques années, ce n'était pas autant... important de vite aller s'internationaliser. Aujourd'hui, je pense que n'importe quelle startup qui n'a pas forcément de vraies barrières à l'exportation va très rapidement penser à s'exporter. Donc
il y a quand même les sujets. Bon, je conçois que le paiement puisse être facilement, puisse être un outil qui facilite le cross-border. En revanche, il y a quand même des sujets logistiques et de passage de frontières, de dédouanement, de TVA qui existent bien.
Qui existent, mais qui ne sont pas si compliqués que ça, en fait. Tu as des règles que tu dois comprendre et ça se fait bien, à nouveau, hein, 20% d'exportation des marchands français vers les US. Donc, je pense qu'aujourd'hui, toutes les solutions technologiques qui t'aident à vendre en ligne ont compris ça et vont fournir des solutions pour vendre à l'international.
Bon, très bien, merci Caroline. Et toi,
après, l'expérience américaine est incroyable, j'encourage tout le monde à venir.
Ouais, ça, je sais que tu le dis très bien. Et toi, Fleur ?
Non, mais pareil que vous, hein. Effectivement, puisque tu disais sur les taxes, oui, c'est hyper compliqué, mais tu as des outils type Avalara et qui ont des dérivés type Avatax que tu peux intégrer sur ta plateforme Magento en 2-2 et qui te calculent toutes les taxes, et ça, c'est très bien géré. C'est un peu le pays du business, hein, donc ils s'arrangent pour qu'en fait, ce soit assez fluide, ce genre de truc. Non, ce que je dirais, c'est que avant de venir, effectivement, nous aussi, on a un peu fait comme Alix, on est un peu venu la faire refuser en se disant, on verra avec trois enfants et tout. Bon, là où je pense que personnellement, il ne faut peut-être pas trop te poser de questions, si tu viens pour du business, c'est important de venir sans a priori et d'écouter et de s'entourer. Parce que tu penses que tu connais le marché américain, que c'est pareil qu'en Europe, tu vois, avec deux, trois différences, mais pas du tout. En fait, c'est hyper spécifique. Culturellement, il y a des grosses différences. Je trouve qu'il y a des cycles qui sont différents. Il y a des habitudes de consommation, on l'a un peu évoqué, qui sont différentes. Donc, je dirais, c'est ça, c'est ne pas avoir peur de repartir de zéro et écouter et être assez humble. Et après, une fois que tu es sur place, savoir s'entourer. Il y a vachement de networking, enfin, c'est vraiment un truc à l'américaine. Tu as plein de clubs, de machins, de trucs, etc., où tu peux rencontrer des gens. À New York, il y a une communauté française qui s'entraide vachement. Et surtout, les Américains n'ont pas peur de partager leur expérience et leurs échecs. Enfin, tu vois, c'est pas un gros mot que de dire que tu t'es planté. Et les Américains parlent de chiffres assez ouvertement et je trouve partagent leurs expériences et leurs réseaux de façon assez sympathique. Donc, pas avoir peur aussi de demander, tu vois, et de poser des questions.
Ben écoute, merci Fleur pour ce mot de la fin. C'est toi qui as ouvert le bal, c'est toi qui le conclut. Merci à vous trois, Fleur, Caroline et Alix, pour cet échange et la qualité de cette conversation. Merci à vous tous qui écoutez. J'espère que ce premier numéro vous aura plu. Je remercie au passage Comexposium et le One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour le support qu'ils apportent à cet épisode. Si vous voulez contacter Fleur, Caroline ou Alix, vous pouvez le faire, j'imagine, via LinkedIn. Ça doit probablement être le meilleur des moyens. Sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un message et je me ferai un plaisir de leur transférer. Merci encore à toutes les trois. Et puis, je vous dis à très bientôt.
Merci, Cyril.
Merci.